Vous écoutez
RMC. RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
François Pinet.
10h06 sur RMC, de retour dans les grandes gueules du sport, votre rendez-vous le samedi et le dimanche de 9h à midi et même pendant les vacances. Si vous avez raté la première heure, le podcast des GG est déjà disponible pour entendre notamment nos GG s'écharper sur le basket. Et oui, très heureux de vous retrouver avec plein de petits nouveaux. Hein. Marion Bartoli, oui, elle a dû se défendre face à Richard Dourte et Frédéric Weiss. Mais Marion Bartoli, c'est une tolière de l'émission, contrairement à Fred
c'est
et à
Richard. C'est la patronne aux deux gamins, c'est ça que
j'ai fait. Ouais, c'est ça. Ouais, vous êtes des gamins.
Au domino.
Ouais, c'est ça.
Dans 30 minutes, l'invité des GG, c'est un miraculé, Laurent Camprubier. Il est resté 16 heures sous la coque de son bateau avec une poche d'air de 30 cm alors qu'il participait à une course qualificative pour la route du Rhum. Il a été secouru lundi dernier, il va mieux et il viendra témoigner en direct dans les GG. Et puis à 11h, les GG qui passent la seconde, des supporters de l'OM qui se mobilisent pour ne pas voir Jordan Vertoux porter le maillot du club. Les supporters ont-ils leur mot à dire dans le mercato de leur club? Oui ou non, les GG, on en débat dans une heure. Et puis n'oubliez pas de vous inscrire dès maintenant au 32-16 pour réagir à ce qu'a dit une GG ce matin. Si vous voulez en affronter une, n'hésitez pas. C'est la séquence les GG et vous, ça sera en fin d'émission. On vous donne la parole à 11h45. Et puis je vous rappelle que le hashtag RMC Live sur Twitter est toujours ouvert. L'appli RMC, vous allez sur Direct Studio pour laisser vos messages et on les lira à l'antenne. On va parler maintenant de la saison de Formule 1 qui n'est pas terminée, mais le mercato des pilotes qui bat son plein. Et l'un des plus célèbres, Fernando Alonso, double champion du monde de F1, va quitter Alpine en fin de saison pour rejoindre Aston Martin. Une décision prise sans en informer son directeur chez Alpine, le roumano-américain Otmar Szafnauer. C'est l'auteur de la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
Mais j'étais convaincu, même avec les discussions, et il n'y a rien de mal à explorer les autres options, que nous étions très proches. La première confirmation que j'ai eue était donc effectivement le communiqué de presse. J'ai bien posé la question, et il m'a répondu, non, non, je n'ai rien signé. J'étais donc un peu surpris.
Alors ça surprend, hein. Ça a dû surprendre Frédéric Mike.
Ouais, je me dis, il a quand même une drôle de voix.
Je connais pas l'émission. C'est sûr que quand tu connais
c'est
pas l'émission.
Siri, c'est notre ami
voilà.
Siri.
Merci Marion de recadrer les choses. C'est Siri qui en fait prend dans sa voix les citations qu'on ne peut pas mettre à l'antenne parce que c'est un communiqué. Tu vois,
bien sûr,
on n'a pas récupéré. T'as compris?
Oui, bah, j'avais compris dès le départ. C'est Siri.
Voilà, mais ça peut surprendre, je comprends. En tout cas, cette question, les GG, attention, on reste sérieux, musique qui fait peur. Fernando Alonso, a-t-il manqué de classe? Oui ou non, les GG? Marion Bartoli.
Alors, je vais dire un immense oui.
Oui.
Et j'ai failli en dire plus, mais on va s'arrêter là.
Tu vas en dire plus tout à l'heure. Oui pour Marion Bartoli. Frédéric Weiss.
Non.
Non.
Bah, c'est un petit non, par contre, moi.
Et Richard Dourte.
Moi, c'est un gros non.
Gros nom.
Bah décidément.
Tu vas être toute seule encore une fois sur ce débat.
On va faire sentir les gants ce matin, hein.
Attention, le gant quand même.
Juste avant de vous donner la parole, on va accueillir Arnaud Souk. Salut Arnaud.
Salut les amis, salut à toutes et à tous.
Ça réveille
Cyril hein, qui parle, hein. Ça réveille. Hein.
Ah, c'est, ouais,
ça fait peur. Hein.
Ouais, moi j'aime beaucoup cette voix. Faudrait d'ailleurs qu'on l'invite un jour.
D'accord,
cette,
ok.
Madame Cyril.
J'en ai ras le bol.
On peut lui faire dire, on peut lui faire dire n'importe quoi en plus.
Ah ouais, mais c'est pour ça qu'elle en a marre. Excellent Alban. Donc juste avant de rendre la parole au GG, Arnaud, tu as travaillé sur ce dossier. Cette décision de Fernando Alonso n'est pas anodine parce qu'elle a entraîné une série de complications pour l'écurie Alpine. Alpine qui a vécu une semaine vraiment agitée.
Oui, et c'est la preuve finalement que les promesses n'engagent bien que ceux qui y croient. Départ d'Alonso annoncé lundi pour remplacer Vettel chez Aston Martin en 2023. Personne ne l'avait vu venir. On peut même parler de traumatisme d'envergure chez Alpine puisque le directeur de l'équipe Otmar Szafnauer pensait encore juste avant le week-end du Grand Prix de Hongrie que la situation était sous contrôle. Les dernières négociations pour une prolongation de Fernando Alonso était alors plutôt encourageante. Elle portait sur une saison supplémentaire plus une deuxième en option. Ne t'inquiète pas, je n'ai signé avec personne d'autre, aurait même assuré le pilote espagnol à son patron lors d'un coup de fil dimanche soir, quelques heures donc avant le coup de Trafalgar, un démenti. Alors même que selon certaines sources, Alonso s'était déjà engagé avec Aston Martin depuis environ 24 heures. Ce retournement pourrait trouver sa source dans l'arrivée désormais actée en tant que titulaire du jeune Oscar Piastri, arrivé précipité en milieu de semaine, précipité car le l'Australien, pilote de réserve chez Alpine, n'était pas censé occuper de baquet en F1 du moins avant 2024. Et c'est justement parce que l'écurie le pressentait comme éventuel titulaire à l'issue de la saison prochaine que Fernando Alonso aurait retourné sa veste, histoire quelque part de faire payer par anticipation à Alpine un certain manque de reconnaissance.
Merci beaucoup Arnaud d'avoir fait le point sur cette affaire.
Il y a l'ambiance pour la fin de la saison, ouais, chez Alpine.
Ça va être sympa, effectivement. Merci Arnaud, tu reviens quand tu veux dans les GG. Je vous rappelle donc la question, Fernando Alonso a-t-il manqué de classe? Et je retiens le gros nom de Richard Dourte. Donc tu vas commencer, Richard.
Non, parce que quand on vous vire d'une équipe, qu'elle soit de Formule 1, de rugby ou quoi, on ne pose pas la question. Fernando Alonso, il sentait venir le vent du boulet, il a précipité les choses. Et puis un gros nom, pourquoi? Parce que il me semble qu'ils ont un petit peu la mémoire courte, parce que si Esteban Ocon a gagné sa première course en Formule 1 l'année dernière en Hongrie, c'est en grande partie grâce à Fernando Alonso qui a empêché Lewis Hamilton, enfin qui s'est battu, il l'a pas empêché, il a laissé 3, 4, 5 tours de bataille pour qu'il le double, et grâce à ce retard accumulé par Lewis Hamilton, Esteban Ocon il a gagné.
Il a fait son travail quoi.
Oui, il a fait son travail, donc la classe elle est là.
Oui, mais moi c'était plutôt dans le sens, bon, il a juste fait ce qu'il devait faire.
Ouais, mais là c'est mais personnel, oui. Donc il a l'esprit d'équipe, il a joué pour l'équipe, et là l'équipe, elle, il sentait qu'elle jouait pas pour lui. Donc à un moment donné, soit il prend une décision, il continue son contrat.
Ouais, mais la prolongation de contrat, elle n'est pas plus annuelle. Hein. C'était 1 plus 1.
Le plus 1 dans le sport, ça compte pas.
Ben non, ça compte pas. C'est 1.
Alors, j'aimerais donner la parole à Marion, parce que c'est la seule qui a dit oui. Fernando Alonso a manqué de classe. Pourquoi, Marion?
Bah parce que quand t'es un homme, tu t'assois à une table et tu dis à ton directeur d'écurie, bah attends, écoute, je suis désolée, mais là, un an, effectivement, avec un an d'option, bah ça me convient pas. Donc, je vais commencer à regarder ailleurs et puis on va se séparer en bons termes. C'est juste en fait la forme, moi, qui me plaît pas du tout.
Après, sur le fond, on connaît pas les dessous totalement, enfin, des choses. Enfin,
pour que Otmar te dise, enfin, ou déclare qu'il a appris par le communiqué de presse que son pilote, qui est quand même encore toujours dans son écurie, va partir l'année prochaine chez Aston Martin, c'est qu'il a juste pas décroché son téléphone et qu'il lui a pas dit, écoute, voilà, la prolongation de contrat.
Ouais, du côté d'Alpine, ils ont dit que
peut-être qu'on connaît pas tout.
Non, mais c'est surtout que
Otmar, il a refusé de lui faire 2 ans ou 3 ans de contrat.
Surtout que du côté d'Alpine, quand même, ils ont annoncé que Piastri serait le pilote. Alors, donc, ça prouve quand même que parfois ils disent des choses qui ne sont pas vraies. Ouais. Quand même, ça tend à prouver en tous les cas.
Piastri,
on est d'accord.
Lui, le lendemain, il a démenti.
Oui, il a démenti.
C'est Mark Webber qui a démenti qu'il avait signé. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième, en fait, c'est Ricardo qui est la pièce maîtresse de la possibilité pour Piastri d'aller piloter en Formule 1 l'année prochaine. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Mais sur Alonso, la décision qu'il a prise, il l'a prise tout seul, sans prévenir Alpine, et en tout cas, à moins qu'il mente ouvertement, mais dans les articles qu'il a déclarés, ils en étaient restés à ce que sur les points principaux, ils étaient complètement d'accord, et il y avait des petites anicroches sur le contrat que l'avocat de Alonso allait régler directement avec l'écurie Alpine, lui partait en vacances sur son bateau en Grèce et que ça serait réglé en 10 minutes à son retour. Voilà ce qu'il a déclaré à son directeur d'écurie. Donc quand tu fais ça et qu'après t'apprends par un communiqué de presse que ton pilote qui est toujours sous contrat chez toi est parti signer ailleurs, c'est même plus un manque de classe. C'est que là c'est
ouais, je suis pas sûr.
Tu vois ce que je veux dire, c'est que ça se termine par des coups de
Rafale quoi. Aston Martin dans le coup.
Aston Martin
parce que peut-être
coup,
qu'Aston Martin, ils sont allés voir Fernando Alonso, il lui dit nous on te fait 3 ans de contrat, mais t'as 24 heures pour signer.
Ouais, et tu dis rien.
Oui, mais tu décroches ton téléphone et tu dis Alpine, voilà la proposition que j'ai. Moi je suis désolée, si vous n'êtes pas
médias,
vers moi d'ici 24 heures avec plus de choses, et ben je vais partir ailleurs. Mais
après,
tu fais
médias,
pas ça dans le dos complètement.
Oui, est-ce qu'il a eu le temps de le faire? Je sais pas.
Bon,
oui,
en tout cas, la décision a été prise puisque Vettel a annoncé sa retraite, hein, et donc il y avait ce baquet chez Aston Martin qui était libre. Et c'est vrai que très rapidement, visiblement, Alonso s'est mis d'accord avec l'écurie. On va d'abord écouter Jean-Luc Roy. C'est le king de la Formule 1 pour ceux qui ne le connaissent pas, mais tout le monde le connaît.
Big boss.
Le king de la F1 sur RMC, qui en dit un peu plus sur justement les raisons du départ, mais pour lui, ça a été une véritable surprise.
Énorme surprise, ouais. Très sincèrement, moi je pensais qu'Alpine devait absolument conserver Fernando Alonso, qui était magnifiquement intégré, dont il disait que c'était le pilier de l'équipe, parce que là aussi, double champion du monde, faut-il le rappeler, 41 ans, une belle stature, une belle complémentarité avec Esteban Ocon, qui est plus jeune, et il s'entendait très bien, même quand il y a eu quelques frictions sportives en piste.
Il lui a fait gagner un Grand Prix quand même.
Hein. Exactement, mais c'était superbe, et on le perd. Ah, les bras m'en tombent un peu. Alors, je pense qu'il y a deux raisons. La première, Fernando, à 41 ans, voulait au moins un contrat de 2 saisons, que Alpine, apparemment, ne voulait pas lui proposer. On n'est pas dans le secret des dieux, mais c'est ce qui semble. C'était 1 an avec peut-être 1 année.
C'était dans l'Intégral Sport cette semaine avec Florent Moussy et Olivier Giraud. Donc voilà, il a dit effectivement ce qu'a évoqué Fred, ce contrat un peu plus intéressant chez Aston Martin. Après, quand on voit la position des équipes au classement constructeur, alors ça peut bouger l'année prochaine. Mais il part d'une équipe chez Alpine où il est quatrième,
ouais.
Pour aller chez Aston Martin, qui galère cette saison, qui est seulement 9e des constructeurs. Ça, c'est quand même, on a l'impression qu'il a choisi uniquement le pognon.
Oui, non, mais après, tu sais, c'était bien expliqué.
Ou la reconnaissance.
Tout ce ouais,
parce que quand il signe 2 ans, ouais.
Moi, je trouve que c'est très bien
la reconnaissance.
Expliqué.
Parce qu'on est en train de parler d'un coureur qui serait la pierre angulaire quasiment
ouais,
de Alpine.
Ouais, j'allais le dire, la pierre angulaire, mais par contre,
sauf
dans un
on lui propose qu'un an.
Ouais,
moi, je trouve ça scandaleux. Moi, honnêtement, c'est honteux.
Mais il a 41 ans.
Mais
ouais.
Voilà. Quel est le problème? C'est la pierre angulaire de ton truc. Tu mises sur lui, tu lui proposes 2 ans. Tu tentes pas le risque, justement, qu'il aille voir ailleurs. Tu sais
ou,
ce que c'est?
Ou une reconversion à la Niki Lauda ou tout
tu sais
ça,
ce que c'est un sportif de haut niveau? Un mec qui a un ego surdimensionné. Donc, tu lui fais un coup comme ça, le prochain coup, il va te la mettre à l'envers. C'est son objectif.
Et
c'est
pour
ça
qu'il
dit non.
Alors.
Parce que je le comprends tout à fait. Il a voulu la mettre à l'envers à Alpine parce que pour lui, ils ne l'ont pas respecté.
Non, mais je suis désolée, c'est pas des méthodes. Tu peux ne pas être d'accord avec ce qu'on
propose. Encore une fois, c'est pour ça que j'ai petit un petit nom. Parce que pour moi,
tu peux ne pas être d'accord avec les méthodes qu'on te propose.
Tu penses qu'on
te propose, mais tu t'assois et tu dis
Marion,
je suis désolée, je pars ailleurs, je pars ailleurs.
Je t'apprends rien, on a des égos surdimensionnés. Je t'apprends rien, Marion.
C'est un gros nom, je pense qu'il s'est assis. Mais Alvin, qui en faisait une pierre angulaire, ils ont dit qu'ils avaient déjà prévu de mettre Piastri en 2023.
C'était un bouche-trou, c'était pas une pierre angulaire.
Ouais, c'était un bouche-trou. Donc le manque de respect, il vient peut-être au départ d'Alpine.
Exactement.
Je pense qu'ils se sont assis et à un moment donné, eh ben Alonso, double champion du monde, il n'y en a pas beaucoup des doubles champions du monde de Formule 1.
Bon après, est-ce qu'on peut en vouloir
tu verras que quand la saison prochaine, il va faire tous les grands prix en marquant à peine des points et qu'il va finir avec Aston Martin, je sais pas combien, il va s'en mordre les doigts, c'est toujours pareil hein.
Cette saison Vettel 6e à Bakou, c'est le seul
la vérité de la course, on verra. Chaque jour est différent, chaque année est différente, on verra.
Oui, alors en attendant, on ne peut pas en vouloir à Alpine, messieurs, dames, que Alpine pense à l'avenir. Pilote de 41 ans, ok, la saison dernière, il a terminé devant Esteban Ocon. Cette saison, c'est Esteban Ocon qui est devant lui. Il a 17 points de moins que le Français au classement des pilotes. Donc, il y a aussi peut-être cette volonté d'Alpine de ne pas de tourner
okay,
un peu
mais
la
le prolonge
page.
Pas du mais tout.
Donc tu le prolonges pas du tout et tu
voilà,
dis bien que
terminé.
Merci beaucoup.
Il y a pas de débat quoi.
C'était super sympa et une prochaine. Et
voilà, merci donc, de
non,
de
parce
tout
que justement, il le respecte.
Mais il le respecte pas,
non.
Il lui propose 1+1.
Bah,
il le respecte pas.
Et la preuve, il le respecte ailleurs, pas parce qu'ils ont déjà prévu de mettre Piastri.
Exactement, c'est un bouche-trou,
Oui.
Alonso, mais ils veulent que Piastri se prépare un peu plus pour être voilà pour être bien.
Exactement.
Ah ben je sais pas quoi.
Après, allez, papy, tu pars
franchement,
en fait, moi,
après ouais. Marion, on se souvient qu'Alonso, il avait pris sa retraite de la Formule 1 et c'est Alpine.
Et il est revenu.
Qui
mais
est
en fait, moi,
revenir,
ce qui
lui
me
a
choque
ce
encore une fois.
Aussi, hein.
Non, mais ce qui me choque encore une fois, c'est juste la méthode employée. Que sur le fond, à mon avis, pour moi, quand même, il va vraiment souffrir chez Aston Martin. Il va être loin de faire ce qu'il était capable de faire chez Alpine, mais ça, c'est encore autre chose. Mais à mon avis, tu vois, tu peux ne pas être d'accord sur ce qu'on te propose. Tu peux ne pas être d'accord avec ton employeur actuel de te dire, je vais aller voir ailleurs. Mais la moindre des courtoisies, c'est de dire, je suis désolé, mais là, ce que vous me proposez, ça me convient pas. J'ai une meilleure offre ailleurs, ou je vais d'abord voir les offres qu'on propose ailleurs. J'en ai une meilleure. Est-ce que vous êtes capable de vous aligner ou pas? Non, vous n'êtes pas capable. On se sépare en bon terme. On finit la saison du mieux possible et je vais voir ailleurs. Point. Je veux dire, c'est juste une question de manière et de forme.
Ouais. Sur le fond, qu'il ait envie
de voir longtemps,
de l'objectivité.
Il n'y a pas de souci.
Encore une fois, je pense qu'il a perdu l'objectivité à partir du moment où on l'a maltraité. Il a perdu l'objectivité.
Mais
encore une fois, je pense qu'il n'a pas été respecté. On n'est pas objectif par rapport à notre ego, les sportifs. C'est comme ça.
Je pense surtout qu'Aston Martin, a bien besoin de Fernando Alonso pour faire évoluer la voiture. Parce qu'on va se rappeler, Aston Martin, c'est le père de Lance Stroll qui a racheté la société, qui a racheté l'écurie, qui avait une autre écurie. Et Ocon s'était fait sortir parce que c'était le baquet qui revenait au fils du propriétaire de l'écurie. Ouais. Rappelez-vous, c'était ça il y a 3 ans.
Ouais. Mmh.
Donc, et
mais je pense qu'Aston Martin a besoin de Fernando Alonso
pour le savoir-faire.
Mais en fait,
c'est
Lorenz
pour ça qu'il faut lui faire une proposition qui est beaucoup plus intéressante. Alors ça, moi, j'en démordrai pas. Hein. Tu disais, Marion, qu'il a choisi l'argent. Peut-être, mais il a 41 ans. Ça sent plus le sapin à la carrière que l'herbe fraîche.
Avec tout ce qu'il a gagné, franchement, donc, il en est plus à ce point-là. Hein,
ouais, je pense. Mais bon, après, il avait 2 ans de contrat. Peut-être qu'il a 3. Peut-être qu'il a une reconversion chez Aston Martin en tant que directeur sportif ou quelque chose comme ça. Ou
c'est intéressant ce que tu dis, Richard. Je sais pas. Et je vais rebondir.
Mais on ne connaît pas les dessous. Mais en tout cas... Je pense que pour Aston Martin, c'est une belle pioche.
D'abord, je vous rappelle 32-16, si vous voulez réagir. Mais... Oui, vas-y Marion, vas-y.
Sur Aston Martin, ça s'était très bien expliqué dans le documentaire Drive to Survive. En fait, Lawrence Stroll pense qu'il faut absolument un champion du monde aux côtés de son fils pour le faire progresser et pour le faire améliorer son pilote. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils avaient pris Vettel au départ. Que Vettel est venu, pardon. Et là, effectivement, ça tombait très bien qu'Alonso soit en bis-bis avec Alpine et de récupérer un ancien champion du monde. C'était parfait pour eux. Que Aston Martin soit une bonne opération, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, c'est juste la forme. Le fond qui décide de partir, j'ai pas, tu vois, je discute pas ça. C'est juste la forme. Je suis désolé, je suis pas du tout d'accord.
Je voulais juste rebondir justement par rapport à ça et Fred qui parle de l'ego du bonhomme. S'il a un ego, il a peut-être envie de gagner des courses avec Alpine. Tu vois ce que je veux dire?
Et je pense qu'il est sur ces considérations-là.
Choisir Aston Martin. Qui pour l'instant ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire que dans le public,
peut-être grâce à lui, franchir un cap. Peut-être que lui, il se dit ça. Peut-être que c'est son objectif. Enfin, tu ne sais pas ce qu'il a dans sa tête. Mais en tous les cas, lui, pour lui, c'est le meilleur du monde. Je sais exactement comment ça résonne un sportif au niveau. C'est le meilleur du monde. Donc à partir du moment où c'est le meilleur du monde, on ne te propose pas 2 ans de contrat, on ne te respecte pas, ben, je te la fais à l'envers et je vais ailleurs. Et voilà, c'est tout.
Bah oui. Bon, ça rejoint un peu ce que dit Marion. Ça manque peut-être de classe de faire ça.
Exactement. Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit un petit non. Ouais. Parce que oui, ça manque un petit peu de classe, mais en même temps, ça se comprend.
D'accord.
Moi, c'est un gros non.
Oui, j'ai bien compris ça. Bon, en tout cas, on voit que Marion, elle se défend vraiment super bien.
Ouais, mais c'est normal, c'est la patronne, on l'a déjà dit.
Ouais, mais bon.
Elle n'est pas pour rien.
Vous n'êtes pas très sympa avec elle. Hein. Je vous rappelle, 32-16, si vous voulez réagir évidemment à ce qu'a dit une GG. Il y a la séquence GG et vous, mais tout au long de l'émission, vous pouvez réagir et venir débattre avec nous sur tous ces sujets. Les GG du sport qui vont continuer d'ailleurs dans un instant avec l'invité des GG. Un miraculé, le skipper Laurent Cambruby, qui a été secouru après être resté plus de 15 heures sous la coque de son bateau. Et il a été secouru cette semaine et il vient témoigner dans les GG. Il a accepté notre invitation. On sera avec lui dans un tout petit instant. Restez bien avec nous sur RMC, à tout de suite.
RMC, les grandes gueules du sport, 9h midi.
François Pinet.
10h30, tout pile. Ça mérite une augmentation. Les GG du sport, c'est jusqu'à midi. C'est tous les week-ends en direct sur RMC. Les GG du jour, Marion Bartoli, Richard Dourte et Frédéric Weiss. Dans 15 minutes, il y aura un nouveau zapping, un nouveau on s'en fout pas, avec du Nadal dedans. Ça, c'est pour Marion. Et avec le président de Naples qui ne veut plus de joueurs africains. Je vous l'ai remis parce que ça m'évite de travailler trop. Et puis surtout, on n'en a pas parlé tout à l'heure. On verra si ça vous intéresse ou pas, les GG. Mais d'abord, c'est l'heure de l'invité des GG. Laurent Cambruby est un miraculé. Le skipper a été sauvé en pleine mer par des sauveteurs espagnols après avoir passé 16 heures sous son bateau. Et il est avec nous ce matin. Bonjour Laurent, merci d'avoir répondu à l'invitation des GG.
Bonjour à tous.
Alors d'abord, première question toute simple, mais comment allez-vous ?
Bah écoutez, je vais très très bien, j'ai super bien récupéré. Et depuis hier soir, je suis avec mes proches. Donc autant vous dire qu'au niveau émotionnel, c'était assez intense.
On va raconter votre histoire, évidemment. Vous allez raconter ce qui s'est passé lundi. Vous êtes en mer, à bord de votre voilier, pour une course qualificative pour la prochaine Route du Rhum. Et à un moment donné, votre bateau se retourne, c'est ça?
Oui, j'étais en qualification pour la Route du Rhum. Donc j'étais parti de Porto, au Portugal. J'avais le Cap Finistère à passer dans des conditions musclées, hein, on le savait, on connaît le coin, la mer se lève beaucoup là-bas, elle est forte. Et bon, ben, j'ai attaqué au petit matin vers 6h, les conditions étaient comme prévu, 30 nœuds de vent, bon, rien de spécial, et puis une mer qui s'est levée de plus en plus. J'avais prévu au début de longer un peu la côte pour mettre à l'abri, mais vu les conditions, j'ai préféré naviguer plutôt assez loin des côtes, parce qu'en solitaire, il peut toujours arriver quelque chose et avoir du temps pour réagir. Et ça se passait bien, le bateau marchait bien. J'avais quasiment fait le plus dur. Et en arrivant à la Corogne, j'ai tiré un bord vers le nord. J'étais au 345 au près et je comptais encore sur 6-7 heures de dur avant que la mer commence à être plus calme. Et voilà, donc je suis au pré, le bateau marche bien, je suis dans le cockpit, dans mon pouf, on va dire en semi-repos, parce que ça faisait déjà 2 jours que j'étais parti, j'avais pas trop dormi. Et puis d'un coup, sur une vague, on va dire habituelle, ce sont des bateaux qui tapent beaucoup au pré, parce qu'ils sont très larges, ils rentrent pas dans la mer, donc ils tapent sur les vagues, mais pas plus fort que d'habitude. Et le bateau, il part à la gîte complètement anormalement, et je comprends tout de suite, en fait. Donc, je me lève rapidement pour essayer de choquer la grand voile pour arrêter de giter. Mais là, le mât est déjà dans l'eau. Le bateau s'enfonce tout de suite. L'eau rentre dans le cockpit. Et là, sans réfléchir, je saute à l'intérieur. Et je me retrouve en une dizaine de secondes à l'envers. J'ai pas réussi à fermer les portes avec l'eau qui envahissait le bateau parce qu'il y avait trop de puissance. Et puis voilà, et puis là on se dit, là on n'est pas bien là.
Ah bah oui, alors vous avez déclenché votre balise de détresse quand même à ce moment-là ? Vous avez eu le temps de le faire ?
Là, ben, quand on est dans ces conditions musclées, on navigue vraiment en sécurité. C'est-à-dire que j'avais mon équipement habituel de gros temps, j'avais mon gilet sur moi avec mes balises personnelles. Non, dans un premier temps, ce que j'ai d'abord, moi je suis quelqu'un qui reste très calme. J'ai analysé, j'ai regardé et j'ai compris que ça allait pas être simple. Et j'ai tout de suite vu l'eau qui est montée et tout, je me suis dit là il va falloir survivre. Et donc j'ai tout de suite pensé à récupérer mon sac de survie et j'avais à bord 2 combinaisons de survie. Et j'ai dit il me faut tout de suite trouver le matériel nécessaire et rapidement. Ce à quoi je m'entendais pas, c'est qu'à l'intérieur du bateau, en plus de l'eau, il y a un ressac terrible. Qui fait que tout de suite, ça commence à arracher un peu tout. Et donc, il était difficile de se déplacer. Donc, ma priorité, ça a été ça. Et je peux pas vous dire, j'ai mis un peu de temps à trouver. Mais à un moment, une des combinaisons apparaît. Donc, je prends tout ça. Et là, je file derrière le bateau dans des endroits plus exigus où le ressac était moins fort. Et là, deuxième opération, je déclenche ma balise. Donc je savais exactement où elle était. Alors il faut réfléchir 3 secondes parce que le bateau est à l'envers. Là, problème, petit coup de stress, c'est que je porte des lunettes pour lire tout ça, donc je voyais rien. Donc est-ce que j'ai appuyé sur le bon bouton ? Est-ce que j'ai pas appuyé sur le bon bouton ? Du coup, j'ai tout déclenché. J'ai déclenché la balise du bateau. Après, j'ai déclenché mes 2 balises perso qui sont dans mon gilet. Bon là, je me suis dit quand même, je voyais que ça clignotait. Je me suis dit là, quand même, je pense qu'il y en aura au moins une qui va émettre. Voilà, et puis là, je suis parti me mettre à l'abri, et voilà, en espérant que les secours allaient entendre. Et j'ai commencé à réfléchir comment j'allais pouvoir mettre ma combinaison de survie dans un recoin plié en deux, sans espace. Voilà.
D'accord, et vous avez passé 16 heures sous ce bateau, on va en reparler bien sûr. Je rappelle, Laurent Camprubi, vous êtes notre invité, l'invité des GG. Skipper qui a été secouru par des sauveteurs espagnols, c'était lundi dernier. Les GG ont des questions pour vous, Marion.
Oui, bonjour Laurent. Alors tout d'abord, j'ai lu effectivement votre récit, j'en avais la chair de poule. Alors vous avez l'air d'avoir gardé votre calme, ce qui est quand même absolument hallucinant dans des conditions aussi compliquées. J'ai pu lire que vous aviez simplement une poche d'air de 30 cm pour respirer. Alors ma question est toute simple, comment vous avez fait pour tenir avec, parce qu'il y a le dioxyde de carbone forcément que vous rejetez qui vient prendre de la place dans cette petite poche d'air, donc comment vous avez fait, est-ce
alors
que finalement
en fait,
vous pouvez l'aérer un petit
quand
peu
quand on parle de 30 cm, c'est 30 cm sur toute la longueur de la coque.
D'accord.
Donc c'est pas une toute petite poche d'air, donc moi honnêtement je me suis jamais posé cette question. Et au début, j'ai un peu plus d'air. 30 cm, c'est au petit matin. C'est-à-dire que là, le soir, avant la tombée de la nuit, j'ai à peu près 70 cm de hauteur d'air jusqu'au plafond. Et sur toute la coque. ce qui donne un restack d'accord. d'ailleurs énorme. Et, au bout d'une heure, tout était arraché, tout se promenait, c'était assez dangereux. Et puis il y avait des trous de la quille en fait qui généraient de l'air sûrement. Mais je me suis pas posé cette question tout, honnêtement.
Vous avez pas l'impression de suffoquer en fait, c'est ça?
Ah pas du tout, j'ai jamais suffoqué non. Okay. Non, j'ai okay. jamais manqué d'air. Et oui, étonnamment, même moi dans le bateau, de temps en temps, j'étais d'un tel calme et d'une telle. J'analysais les. Je me parlais à moi-même et des fois je me disais. Tu te rends compte où tu es, ce qui va se passer là Parce que c'était pas gagné l'histoire quand même.
Richard Dourte a une question pour vous, Laurent Camprubi.
Ouais.
Bonjour Laurent.
Bonjour.
Et tout d'abord, félicitations. Pas félicitations Merci. Parce que vous avez gagné, mais félicitations parce que. La force mentale qu'il faut, c'est exceptionnel. Juste une anecdote, nous on avait Thierry Dubois qui était venu nous rencontrer, l'équipe de France de rugby, pour nous expliquer son chavirage lors de du Vendée Globe en 96, d'accord ?
Ouais.
Et nous, il avait été en fait, son bateau était, c'était retourné, le bateau de survie était parti, il s'était accroché à la quille. Au safran, c'est ça ? Je sais pas. Enfin bon, voilà.
Qui est pas sur la côte.
Côté. Voilà. Ouais. Et en fait, à chaque vague, il était trimballé à 30 mètres. Donc, toutes les 15 secondes, il revenait. Mais c'est un peu ce qui vous est arrivé. Donc, est-ce que vous sentez que vous êtes encore plus fort aujourd'hui qu'avant cet événement ?
Non, honnêtement.
Mentalement, physiquement, expérience, tout ça.
Pour ceux qui me connaissent, si vous voulez, mon mental, ça a toujours été ma force.
Voilà.
Je suis quelqu'un qui panique jamais, qui reste toujours calme et tout. Et pour être tout à fait honnête, c'était même plus que 16 heures, ça fait presque 18. J'ai jamais douté que moi j'allais réussir à survivre. Jamais.
Ah oui.
Et par contre, j'ai souvent douté qu'ils viennent me chercher. Ça c'est dur.
J'ai une question là-dessus. Alors.
Vas-y,
après. Non, vas-y Fred, vas-y.
Fred, va, c'est une question.
Non, moi j'ai juste une question Laurent. En fait, vous avez expliqué que
non, on peut se tutoyer.
On va se tutoyer, ce sera plus simple. Donc tu as expliqué qu'au début, les premiers gestes que tu fais, c'est des gestes qui sauvent, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que tu mets tes balises, tu mets ta combinaison, etc. Mais il reste encore beaucoup de temps. Donc comment tu occupes le temps qui te reste? Parce que ça doit être une attente incroyablement longue.
Alors en fait. Déjà, quand ça arrive, donc je déclenche tout ça, je me mets à l'arrière et tout, et là il faut que je mette ma combinaison de survie. J'ai conscience que moi je pensais que l'eau était à 18-19, en fait elle était à 15-16.
Okay.
Donc elle était vraiment froide. Mais je savais qu'il fallait que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, j'avais quelques notions de ce qu'il fallait faire. Je savais qu'il fallait que je la mette. Mais bon, la mettre d'abord normalement une combinaison de survie, on la met avant d'aller dans l'eau, ce qui permet d'être au sec. Bon, mais je me suis dit, vu le néoprène épais et tout, ça va de toute façon m'aider, réchauffer. Et donc, ma priorité, c'était ça. Et j'ai mis beaucoup de temps à la mettre. Parce que, en fait, quand la première rotation d'hélicoptère est arrivée, j'avais pas fini de la mettre. Donc, autant vous dire que D'accord. ça a pris du temps. Et la notion de temps, en fait, finalement, ils arrivent. Je suis encore occupé, je suis pas prêt. Donc, déjà, j'avais pas compris. Que c'était l'hélicoptère, parce qu'à l'intérieur, il y a un vacarme, il faut comprendre, il y a un vacarme énorme, tout est arraché, il y a un bruit, mais je pensais que je me disais, si tu t'en sors, t'auras sûrement plus beaucoup d'auditions, en fait, tout va bien. Et je pensais que c'était un appareil, vous savez, on a des piles à combustible qui se mettent en route pour le, et comme j'étais à 20 cm de cette pile, je pensais que c'était elle qui faisait le bruit. Et en fait, j'ai réalisé que c'était l'hélicoptère quand on a tapé sur la coque.
Et voilà,
mais d'un coup, je me dis, mais ils sont là, c'est l'hélicoptère.
Donc là, vous avez répondu.
Là, il faut que je réponde, sauf que je suis dans un endroit extrêmement exigu et j'ai encore un bras que j'ai pas réussi à passer. Donc j'ai un bras qui est dans la combi, l'autre il est derrière en contorsion où j'essaie d'enfiler cette combi et j'arrive pas à taper en fait. Oh là là. Et là, ils partent. Mais bon, là, je sais qu'ils vont revenir. Donc là, je finis. Alors là, je m'habille. Là, j'arrive vraiment à m'habiller. Ça a dû me motiver. Et j'attends qu'ils reviennent. Voilà. Et quand ils reviennent, là, je tape. Et alors, j'ai pas d'objet. J'essaye de trouver quelque chose. Le problème, c'est que tout ce que j'ai, même mon sac de survie, en fait, pendant que je m'habillais, j'avais mis dans un endroit le plus protégé possible. Et en fait, il est parti quand même. Et sauf ma balise que j'ai attachée avec moi, tout le reste, tout ce que vous tenez pas, ça s'en va. Et puis, ben, j'ai que demain, donc c'est compliqué.
Oui, Laurent Corbuy, qui est donc le skipper qui a été sauvé à lundi.
Ah oui,
alors,
Marion,
Richard.
Oui, Laurent, alors justement, dans le récit que j'ai pu lire, vous l'avez expliqué, il y a donc l'hélicoptère qui vient poser un sauveteur sur la coque de votre bateau, il tape, vous arrivez à voir, en tout cas il entend vos coups en retour, ou peut-être c'est un bruit, quelque chose qui est venu percuter, mais donc ils comprennent que vous êtes vivant. Et là, quelle a été la manière dont ils ont abordé finalement? Est-ce qu'ils ont plongé par-dessous, ils sont arrivés à rentrer dans votre bateau? Parce qu'ils disent qu'ils ont touché votre botte rouge en premier, c'était votre pied.
Dans les 5 dernières minutes, on est à la fin là.
Ça s'est passé comment justement du moment où ils ont tapé sur la coque?
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a sur ces bateaux, on a des voies de secours à l'arrière du bateau et avec une trappe sur le tableau arrière, mais tout ça c'était enfoncé dans l'eau. Donc c'était enfoncé dans l'eau et c'était inaccessible. Donc en fait, quand ils sont venus la deuxième fois, là je tape, etc. Et ils repartent. Et là je suis en colère contre moi-même parce que je me dis, mais tu es passif, tu attends qu'ils viennent te chercher. Et si tu fais pas quelque chose, il va rien se passer. Ouais. Et donc je me dis, s'ils reviennent, parce que là j'étais plus tellement sûr, est-ce qu'ils m'ont entendu, pas entendu. Et il va falloir tout tenter. Et en fait, 45 minutes après, ils reviennent. Et là, j'avais tout analysé. Je me dis, bon, ben, c'est sous l'eau, mais tu vas essayer d'y aller quand même. Et il doit y avoir une autre poche d'air. Tu reprends de l'air et tu vas à la trappe, tu sors et voilà. Et donc, ils reviennent. Donc là, je pars, je tente tout, je passe à l'arrière. Alors, autant vous dire qu'avec la combinaison de survie, c'est pas simple. Et en fait, je passe cette trappe et derrière, il n'y a pas d'air. Donc là, je sais que je vais pas y arriver. Et donc là, il faut faire marche arrière. Donc déjà, je suis revenu là, c'était un peu chaud. Et là, j'avais en fait ma porte grande ouverte à l'envers, donc dans les fonds. Et je me dis, ben, tente la porte. Et puis, au milieu de la porte, il y a un spi qui est déballé, il y a des voiles au milieu, il y a plein de bouts. Et là, je le tente pas. Je me dis, là, si tu restes accroché, c'est pas la peine. Donc, et là, ils s'en vont. Et là, dans ma tête, en fait, je me dis, bon, ben, je pense qu'ils m'ont entendu parce que j'ai tapé, j'ai crié et je me dis bon ben maintenant il faut survivre et demain matin ils seront là. Et je me suis pas posé de questions, donc la question de temps en fait, j'ai trouvé un deuxième coin de survie où j'ai pu en fait je suis monté sur un tunnel qui traverse le milieu du bateau, je suis monté là-dessus, je me suis attrapé une poignée qui est normalement au fond du bateau qui sert à remplir les ballasts. Et j'ai sorti au maximum mon torse de l'eau pour avoir le pas froid. Et j'ai tenu comme ça, mais une position improbable que je serais incapable de tenir 15 minutes dans un temps normal. Et j'ai tenu jusqu'au petit matin. Et j'ai même pas eu la notion. Alors oui, c'était un peu long quand même. Mais j'ai fait abstraction de tout, de la souffrance, du temps. Il fallait que je survive jusqu'au petit matin. Ouais,
incroyable récit de Laurent Corbuy, notre invité dans les GG. Tu avais une dernière question, Richard, à poser à Laurent.
Ouais, en fait, c'était un peu ce que demandait Marion. Mais d'accord. Est-ce qu'il y a une procédure, Laurent, quand il arrive un truc comme ça, à part les balises et la combinaison de survie? Parce que quand l'hélicoptère arrive, qu'il tape, toi, tu sais pas s'ils t'ont entendu. Et ils repartent en plus. Est-ce que tu t'es jamais dit? Et vont jamais revenir.
C'est angoissant.
Oui. En fait, le petit matin, donc je m'étais.
Est-ce que c'est leur procédure normale, ça?
Et procédure normale. Le problème, j'avais pas de contact.
Ouais.
J'ai par miracle le soir, par miracle, je suis tombé sur mon téléphone Iridium portable. Mais malheureusement, j'avais plus de forfait. Et pourquoi? Parce que j'avais un autre téléphone Iridium énorme dans le bateau, donc j'avais pas franchement besoin des deux, mais c'est une erreur. Il faut avoir dans son sac de survie, il faut un téléphone pour créer le contact en fait.
Ouais.
Et là, si j'avais pu communiquer avec eux, ça aurait été plus confortable. Hein.
Bien sûr. Laurent, une dernière question avant de vous laisser tranquille, profiter de vos proches. Quand on a vécu un moment comme ça, où on a frôlé la mort, est-ce que, en tant que skipper, on se dit déjà, je vais reprendre la route de la mer, sachant que la route du Rhum était un de vos objectifs?
Alors, là, je vais être clair. Moi j'ai j'ai absolument pas peur de reprendre la mer. J'ai même déjà contacté un ami pour savoir s'il avait une place pour une régate qui a lieu en octobre. Mais une chose est claire, c'est que moi j'ai eu très peur pour ma femme et mes enfants de plus les revoir. Et donc ce sont des programmes qui demandent un énorme investissement parce que le niveau est très haut et donc beaucoup de temps. Et une chose est sûre, c'est que je vais continuer à naviguer, parce que j'en ai besoin, j'ai besoin de faire du sport, mais je vais essayer en tout cas de consacrer beaucoup plus de temps à ma famille.
Bah merci beaucoup Laurent en tout cas pour ce témoignage.
Félicitations.
Merci à vous. Si j'avais pu vous capter, ça aurait été moins long quand même.
On s'ennuie moins avec les GG, c'est sûr, sous un bateau, j'imagine.
Faut la balise RMC sur les bateaux en solitaire.
Faut prévoir ça, effectivement. En tout cas, merci pour ce témoignage assez fou, complètement fou même, et d'avoir pris le temps surtout d'être venu dans les GG pour en parler. Merci Laurent.
Vous écoutez souvent, c'est avec plaisir.
Merci beaucoup. Merci Laurent Cambrubi, donc skipper, qui a raconté cette histoire folle qui lui est arrivé cette semaine, et vous pouvez réécouter ça bien sûr en podcast dans les podcasts RMC. Dans un instant, avec nos GG, le retour du zapping, le on s'en fout, on s'en fout pas. On va parler de Nadal, tiens. Est-ce qu'on s'en fout ou on s'en fout pas de Nadal? Réponse des GG dans un instant, à tout de suite.
RMC, les grandes gueules du sport, 9h midi,
François Pinet.
Il est 10h50, les GG du sport, c'est jusqu'à midi avec nos GG du jour en pleine forme. Marion Bartoli, Richard Dourte, Frédéric Weiss. À partir de 11h, les GG passent la seconde avec cette question, les amis. Les supporters ont-ils leur mot à dire dans le mercato de leur club? On reparle notamment de l'affronte de certains supporters de l'OM sur la venue de Jordan Vertoux. Mais d'abord, zapping deuxième version.
Le zapping des GG, le retour.
Alors un mini zapping, mais en même temps il y avait un témoignage tellement passionnant de Laurent Cambrubi, donc ça s'explique pour ça, à retrouver en podcast bien évidemment. Donc peut-être une seule info à traiter, ça dépend de vous. Cette info, Nadal forfait à Montréal, est-ce qu'on s'en fout ou est-ce qu'on s'en fout pas, Marion Bartoli?
Alors moi non, mais j'ai l'impression que Richard s'en fout de ce que j'ai entendu avant la
pluie. Toi tu t'en fous pas, Richard Dourte.
Je savais pas qu'il était forfait.
Richard,
moi je m'en fous pas.
Tu t'en fous pas. Frédéric Weiss.
Eh bien, j'ai changé d'avis, je m'en fous.
Très bien, Fred. Nadal, qui a décidé hier de reporter son retour à la compétition, il a annoncé dans un tweet qu'il renonçait à participer au Masters 1000 de Montréal, puisqu'il souffre toujours d'une blessure aux abdominaux qui l'a empêché de disputer sa demi-finale de Wimbledon contre Kyrgios. Nadal qui précise qu'il a ressenti une gêne à l'entraînement cette semaine. Pourquoi on s'en fout pas, Marion?
Ah, parce qu'il y a la course au Grand Chelem, parce qu'il y a l'US Open qui arrive dans pas très longtemps, fin août, et qu'il y a aussi en suspens la possibilité pour Djokovic ou non de pouvoir jouer l'US Open. Donc il y a beaucoup de questions, en tout cas sur Rafa et Djokovic qui se battent sur cette suprématie au niveau du nombre de tournois du Grand Chelem. Donc c'est ça qui est très intéressant sur cette fin de saison, puisque Novak, en remportant Wimbledon, est revenu à 21, Rafa est à 22. Donc si Rafa ne peut pas jouer l'US Open, ou en tout cas pas dans de bonnes conditions, même si Novak ne le joue pas, on se dit qu'en restant qu'à une longueur, il peut revenir à 22 à l'Open d'Australie.
Hey Marion, tu te rends compte ce que tu dis, 21, 22, on parle de Grand Chelem.
Eh oui, je sais, c'est énorme, mais c'est eux qui ont mis des standards à des niveaux incroyables. Eh oui, je sais.
Non mais c'est énorme,
mais même ça,
on se rend pas compte.
T'imagines que ça relègue Roger au troisième rang quand même, à 20 Grand Chelem.
Parce qu'il y a 8, il y a 20, il y a 22, 21 et 20. Et les autres, c'est les miettes, hein. C'est même pas des baguettes qui restent, c'est des miettes. Enfin bon, c'est dingue ce talent quand ces joueurs. Et nous on s'en fout pas, non, parce que ça sent un peu le sapin pour Rafael Nadal, il enchaîne les blessures. C'est ça qui est un peu embêtant.
Il a déjà fait, et puis il est déjà revenu très très fort.
Il est déjà revenu, mais bon. Après, il a.
Oui, puis Mario, là quand même, il va être papa. Il a peut-être aussi d'autres choses à. Tu vois, peut-être d'autres priorités. Ouais. C'est quand même un changement
Marion,
dans une vie.
Marion, elle est beaucoup plus technique que moi là-dessus, mais il a quand même un jeu très énergivore. Hein. Raphaël Nadal,
bien sûr.
Il s'économise.
Bien sûr. Et puis surtout sur dur, où il fait extrêmement chaud à New York, il faut avoir une caisse physique très importante, donc c'est-à-dire qu'il doit être capable de s'entraîner pendant beaucoup d'heures pour préparer l'US Open correctement.
Son pied, c'est pas guéri.
Son pied va prendre beaucoup de chocs sur dur, beaucoup plus que sur terre battue ou sur gazon, bien sûr.
Je crois pas que ce soit guéri, non? Enfin, il y a tout
non,
ça,
non.
Donc...
Bon,
ouais, c'est
récurrent.
C'est un peu dur pour Rafa en ce moment.
Et Rafa, on verra comment ça va se passer pour lui. En tout cas, on a bien aimé l'avis de Fred Weiss sur ce.
On m'a dit que si je disais non, j'avais pas le droit de parler.
Il était percutant et incisif.
Je ne vais pas parler.
C'est pour te chambrer, t'as bien compris les règles.
C'est les règles, c'est tout. T'as pas l'habitude d'avoir des mecs qui respectent les règles.
Tu es parfait, Fred, pour ta première. Le prends pas mal.
Toujours respecté.
En tout cas, on a compris que Fred, si tu ne le respectais pas dans son ego, il allait te la faire à l'envers. Ah ouais.
Exactement.
Aussi, hein.
Marion, on se connaît pas beaucoup, mais tu me connais bien.
Les GG du sport et leur ego reviennent dans un instant, bien sûr, et passent la seconde. On va parler des supporters. Et les supporters ont-ils leur mot à dire sur le mercato de leur club, les GG? Il va falloir trancher. On attend avec impatience l'avis de Fred là-dessus. Allez, à tout de suite sur RMC. Restez avec nous.